Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes avec l'abbé Philippe Baïtia. Bonjour et bonne fête de Noël.
Bonjour et bonne fête de Noël aussi à tous les auditeurs.
Jésus, dont nous célébrons la Nativité, n'est pas né le 25 décembre à minuit.
Et oui, contrairement à ce que porte minuit chrétien, il n'est né ni le 25 décembre, ni à minuit. Bon, on ne connaît pas la date précise de la naissance de Jésus, on arrive à situer l'année. Mais voilà, à Rome,
Donc, c'est quelle année? Moins 6, moins 7?
oui, par là, moins 4, là aussi, il y a quelques doutes suite au calcul de Denis le Petit. Bon, mais j'entre pas dans cette problématique. Mais le 25 décembre à Rome, c'est une fête païenne, celle du soleil invaincu, puisque les jours commencent à rallonger avec le solstice. Et donc, sur la colline du Vatican à l'époque, les païens se prosternent devant le soleil levant. Et bien sûr, l'Église a récupéré ce jour de fête païenne et bien sûr a célébré le soleil de justice qui, lui, ne se couche pas.
À quelle époque ça?
Dans les années 250-300, à peu près.
Nous allons parler de la nativité du Christ. Le seul évangéliste qui finalement nous raconte un peu en détail, avec quelques détails, la naissance du Christ, c'est Saint Luc.
Voilà. Saint Luc nous dit au début de son évangile qu'il a fait enquête et qu'il a interrogé les témoins de la parole. Et quand on lit Saint Luc, on se rend compte que très sûrement, il a dû interroger la Vierge Marie, parce qu'il y a des choses qu'elle seule savait, par exemple l'épisode de l'Annonciation et tout ce qui concerne la naissance de cet enfant. Donc Luc est effectivement nous parle de la naissance de Jésus. Notez bien aussi que Matthieu nous en parle, de la naissance de Jésus, mais sous un autre angle. Donc c'est Luc qui nous parle principalement de la naissance du Christ.
Alors, la liturgie nous propose plusieurs récits de la naissance du Christ à travers les différentes messes, donc messe de la veille au soir, messe de la nuit, messe de l'aurore et messe du jour.
Pour nous centrer plutôt sur la messe de la nuit et la messe du jour, nous avons affaire à la naissance du Christ au milieu des embarras d'un recensement et à ce que l'on a l'habitude d'appeler l'adoration des bergers. Donc, à travers le premier récit, eh bien, ce que ce récit nous montre, c'est que s'accomplit la prophétie selon laquelle le Messie, fils de David, de la famille de David, devait naître à Bethléem, selon ce que dit le prophète Michée au cinquième chapitre de son livre. Cet enfant né dans les embarras de ce recensement, ça veut dire que cet enfant va naître dans la précarité, parce qu'on imagine que les auberges, bon, qui sont un peu, si vous, quand on a regardé La Folie des Grandeurs, bon, c'est un peu ce type d'auberge-là. C'est pas comme aujourd'hui, des hôtels avec des chambres. Il y a que quelques chambres pour des hôtes de marque et ensuite une grande salle commune où
On se sert les uns contre les autres.
on se sert au moins. Donc, bien entendu, il n'est pas possible qu'un accouchement ait lieu là, et donc il a fallu trouver une solution de rechange, dirait-on, aujourd'hui. Bien. Et donc voilà, ça nous montre cela. Ça nous montre aussi, à travers cette naissance, un peu ce que le poète Charles Péguy nous dit, voilà, la présence du Christ dans le milieu des hommes, dans les affaires des hommes, et aussi, d'après Charles Péguy, voilà, l'attente du Christ, une attente bien sûr confuse, par la société romaine de l'époque, et qui manifeste un peu l'attente du Christ, soit confuse, dans la recherche spirituelle ou la vie morale de gens de notre époque, et aussi bien sûr l'attente du Christ plus consciente, plus désirée, plus voulue dans le cœur de ses disciples. Vous avez cela à travers l'épisode du recensement. Et on nous dit que cet enfant, bien on l'entoure de l'ange. Luc donne ce détail. Et donc, voilà, l'humanité de Jésus. Jésus a été un petit bébé. Jésus, voilà, sa mère, son père, son père adoptif, ont dû s'en occuper. Voilà, donc, la réalité de l'incarnation de Dieu qui se fait homme.
Est-ce qu'on n'a pas un peu idéalisé la naissance du Christ, 2000 ans après, aujourd'hui, en faisant quelque chose d'un peu mièvre et doucereux avec la crèche où tout est doux, tout est enveloppé de lumière, mais finalement la naissance du Christ, elle se passe, comme vous l'avez dit, dans la précarité, dans la solitude, et puis il va falloir fuir ensuite, c'est la fuite en Égypte. Donc c'est pas du tout une famille idéale telle qu'on l'imagine aujourd'hui, où tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
Est-ce que tout se passe bien aujourd'hui dans les familles dans le meilleur des mondes? C'est peut-être très discutable. Les familles pourraient en dire. Bon, bien sûr, vous avez l'art Saint-Sulpice, un art un peu doucereux du 19e siècle, bon, qui représente voilà, l'enfant Jésus avec des teintes roses, etc. Quand on y réfléchit d'un peu près, qu'on prend l'ensemble des évangiles de l'enfance, tant ceux de Luc que ceux de Matthieu, on se rend compte que, bon, bien sûr, c'est dans les embarras d'un recensement et de la difficulté de trouver un lieu où est lieu cet accouchement, mais c'est quand même la venue du Verbe de Dieu, du Fils de Dieu dans notre chair. Donc, et ça, c'est bien sûr quelque chose d'enthousiasmant et de lumineux. Et voilà, la lumière dans la nuit, quoi. Et bien sûr, et on pourrait commenter cela aussi, la croix se trouve près de la crèche très rapidement. Par exemple, la persécution d'Hérode, le massacre des innocents, ou voire même chez Luc, quand le vieillard Siméon prend cet enfant dans ses bras, eh bien, voilà, cet enfant qui est cause de chute et de relèvement, de résurrection, c'est ce terme-là qu'il y a en grec. Pour les hommes. Donc, à travers les évangiles de l'enfance, bien, tant Matthieu que Luc nous transcrivent ce que sera la destinée de Jésus, son accueil, son rejet, sa persécution et sa mort en filigrane. De même que sa résurrection, puisque pour toujours pour Siméon, il doit être la lumière des nations et la gloire d'Israël.
Si on célèbre la nativité du Christ, c'est parce qu'il est ressuscité.
Bien entendu, on ne célèbre pas la nativité du Christ comme on célébrerait, je ne sais pas moi, celle de Napoléon ou d'autres personnages glorieux de l'histoire. Mais la liturgie nous dit que, alors bien sûr, on la célèbre parce que la lumière de la résurrection se projette sur les récits de l'enfance. Mais la liturgie nous parle déjà de ce rayonnement du Verbe de Dieu en Israël et du Verbe de Dieu chez tous les hommes dans le mystère de son incarnation. Les textes liturgiques vont aussi dans ce sens.
C'est l'évangile du jour de Noël, le prologue de Saint Jean.
Prologue de Saint Jean alors, nous dit un peu ce que les évangiles de l'enfance nous disent, c'est-à-dire la transcription dans les évangiles de l'enfance de la destinée de Jésus, accueil, rejet, souffrance, mort, résurrection. L'évangile de Jean nous le dit de manière théologique. Donc le Verbe de Dieu, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur, se fait chair. Jean utilise un mot assez vulgaire. Il utilise le mot grec de sarx, qui veut dire viande, qui veut dire bidoche, pour bien montrer la réalité de l'incarnation face à des tendances qui, déjà du temps de Jean, la niaient. Bien, Jean nous parle aussi, il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu, donc de la destinée dramatique de Jésus, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. Donc aussi, ben voilà, de l'accueil du Christ, et que nous avons reçu de lui grâce sur grâce, et que bien la loi nous est venue par Moïse, dira Jean, mais la grâce nous vient par Jésus-Christ. Donc voilà, que la puissance de la résurrection nous vient parce qu'il y a eu l'incarnation. Voilà. Et elle vient à ceux qui, de bonne foi et de bonne volonté, veulent accueillir le Verbe de Dieu.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia, et bonne fête de Noël à toutes et à tous.